L'une des bénédictions ce matin pour nous, c'est que Dieu nous a envoyé des personnes qu'on ne voit pas très souvent. Je veux dire, avant de continuer, qu'on est très content de voir Luc parmi nous ce matin. Bonjour Luc, ça c'est une, pour moi, c'est une bénédiction imprévue. Et on va peut-être après, on peut savoir plus de ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu a aussi envoyé envers nous la famille Bixby. On a Donna avec nous, ça c'est une bénédiction. Et aussi Timothée et René et leurs enfants. Et quand j'ai appris que Timothée sera avec nous, je lui ai demandé s'il veut apporter la parole de Dieu pour nous. Et maintenant, ce n'est pas une autre partie. On a fini avec l'adoration et maintenant on écoute à la prédication. Maintenant, on continue avec l'adoration de notre Dieu en écoutant à ce qu'il dit à nous à travers sa parole. Et quand on écoute à la parole de Dieu avec les cœurs ouverts en disant « Change-nous, Père », il reçoit de nous la gloire. Et donc, écoutons maintenant la parole de Dieu. Et merci, Timothée, d'être venu.
Bonjour à tout le monde. C'est une joie pour nous d'être de retour et d'être avec vous dans une église qui nous est très chère et dont nous avons passé beaucoup de temps depuis l'âge de 14 ans. Je suis associé à cette église. Et en famille, nous avons passé 4 ans parmi vous. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être avec vous et de voir la grâce de Dieu dans vos vies. Même si vous nous avez volé la famicole, on va pas rester amer pour cela, car nous voyons la main de Dieu. C'est avec tristesse qu'on les a vus partir, mais aussi avec joie, sachant que c'était la main de Dieu. Un peu, on réfléchissait ce matin encore et hier, et ce matin, on parlait des détails de la mort de mon papa, et on voit, bon, il y a la tristesse, mais on voit aussi la bonne main de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. Ah, sache le reconnaître. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait, mais sache le reconnaître. Souvent, on n'a pas les yeux pour voir la bonté de Dieu, surtout dans des moments tristes et difficiles de la vie. Mais je veux considérer avec vous ce que nous avons vu juste la semaine dernière à notre église, l'église baptiste du Grand Roissy à Sarcelles. Et c'est sur le thème de l'incarnation et l'humilité, ou si vous préférez l'humiliation de Dieu. Alors si je vous posais la question, Dieu est-il un Dieu humble? Que diriez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette thèse? Que de tous les êtres de l'univers, le plus humble est le Dieu trinitaire. Avez-vous réfléchi à l'humilité de Dieu? Et si vous êtes d'accord que Dieu est humble, qu'est-ce que cela veut dire de parler de l'humilité de Dieu? Nous savons, j'espère, que Dieu est un Dieu qui cherche à tout moment sa propre gloire. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour la gloire de qui? Dieu fait tout pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Fait tout pour la gloire de Dieu. Et si, nous allons pas le prendre, mais si on pouvait lire ensemble Éphésiens chapitre 1, vous verrez que un refrain qui revient trois fois dans ce chapitre, c'est à la gloire, ou parfois c'est mis à la louange de Dieu. Ce chapitre nous raconte tout ce que Dieu fait dans la création du monde, dans le fait que nous sommes élus avant la fondation du monde, tout ce qu'il fait en Jésus-Christ, et tout ce qu'il fera par rapport à notre héritage futur. Donc c'est un chant qui englobe l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, et ça nous dit que tout ce que Dieu fait, il fait à la gloire et à la louange de Dieu. Il fait pour sa propre gloire, même notre salut, et pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons dire aussi que l'amour de Dieu pour nous se démontre dans le fait que Dieu dévoile devant nos yeux sa propre gloire, qui nous révèle sa splendeur. Parce que Dieu aurait pu nous cacher sa gloire, n'est-ce pas? Il aurait pu le montrer à personne. On n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. C'est ce que nous méritons, car tous ont péché, et à cause du péché, ils sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Et Dieu aurait pu nous laisser dans cette position où nous serions à toujours privés de voir, de partager, d'admirer la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour incompréhensible mais infini, Dieu a choisi de nous révéler sa gloire. Il a fait en sorte que nous ne restions pas à toujours privés de la gloire de Dieu. Et ce qui existe au ciel, ce que Marcel ou René ou Robert, ce qu'ils voient maintenant, c'est la gloire de Dieu. Et je vous assure qu'ayant vu la gloire et la splendeur de Dieu au ciel, ils ne veulent pas autre chose. Si on pouvait leur donner le choix, vous voulez revenir à Pessac? Je suis sûr qu'ils nous diraient non merci. J'ai tout ce que mon cœur désire en voyant la gloire de Dieu. Et en fait, si Dieu est lui-même le plus grand bien, il n'y a pas de plus grand amour que de se révéler à l'homme comme étant le plus grand bien. Si Dieu aurait choisi, pensez à cela, même les enfants, si Dieu aurait choisi de chercher la gloire de quelqu'un d'autre, si Dieu aurait fait des choses pour la gloire de quelqu'un d'autre, il ne serait pas seulement idolâtre, parce que c'est une idolâtrie de mettre quoi que ce soit au-dessus de Dieu. Il ne serait pas seulement menteur, parce qu'il serait en train de faire semblant qu'il y a quelqu'un de plus important que lui, quand il n'y a pas. Mais il ne serait pas non plus un Dieu d'amour, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on veut lui donner le meilleur. Et Dieu est le meilleur. Et il n'y a pas de plus grand don que quand Dieu se donne lui-même. Alors tout ça c'est la grandeur de Dieu, mais Dieu est un Dieu humble. C'est ça que nous voulons considérer. Il est humble. Et ce n'est pas une contradiction de dire qu'il est à la fois humble et qu'il cherche sa propre gloire. Parce que l'humilité ne consiste pas à nier ce que je sais est vrai de moi-même. Avant j'avais un peu la conception de l'humilité comme celle-ci. Je disais, bon, je sais que je suis quand même quelqu'un de bien. Mais puisque je suis humble, je vais faire semblant que je suis vraiment nul et pas bien. Quoi que je sais, parce que je suis quand même quelqu'un de bien. Mais ça, ce n'est pas l'humilité. Si Yosang, par exemple, vient et me dit, moi je parle mieux le coréen que toi. Moi, je peux pas lui dire, bon, quel orgueil, Yosang, de prétendre, de dire que tu parles mieux le coréen que moi. Ça, c'est pas l'orgueil. C'est la vérité. Elle peut être humble tout en reconnaissant qu'elle parle beaucoup mieux le coréen que moi, sachant que je ne parle même pas un mot du coréen. L'humilité ne consiste pas à nier la vérité sur soi. L'humilité consiste, en fait, à accepter la vérité sur soi. Et bien sûr, cette vérité en ce qui concerne l'homme n'est pas très belle. Parce que la vérité est que, en tant qu'homme, le péché a pénétré tous les crevasses de mon être. Je suis partout pécheur. Et souvent nous voulons croire que nous sommes pleins d'amour quand nous ne sommes pas. Nous voulons croire que nous sommes plutôt sages quand notre raisonnement est tordu. Nous voulons croire que nous sommes plutôt forts comme nous sommes, quand nous sommes en fait très très vulnérables et très faibles. Nous voulons croire que nous n'avons pas trop de soucis avec l'orgueil quand à vrai dire il n'y a rien que nous fassions qui n'est pas façonné d'une façon ou d'une autre par notre orgueil. Donc l'humilité pour l'homme consiste à reconnaître que nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes des pécheurs, que nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Pour l'homme, ça c'est l'humilité. Mais l'humilité d'une fourmi est forcément différente que l'humilité dans un homme. Pour la fourmi, l'humilité consiste à admettre qu'elle n'est pas, qu'elle ne sera jamais homme. Mais un homme peut être homme tout en reconnaissant qu'il n'est pas une fourmi, qu'il a des forces supérieures à la fourmi, une intelligence beaucoup plus supérieure et même une valeur supérieure à celle de la fourmi. Que si c'est entre ma vie et la vie de la fourmi, eh bien c'est ma vie qui doit être prisée avant la sienne. Je peux être humble tout en reconnaissant que j'ai une plus grande valeur que de la valeur d'une fourmi. Et de même, l'humilité de Dieu doit forcément être autre chose que l'humilité de l'homme. Parce qu'il y a encore plus de distance entre moi et Dieu qu'entre moi et la fourmi. Parce que moi et la fourmi, nous sommes tous les deux des êtres créés. Dieu est un Dieu infini. Il n'a jamais été créé. Donc il a beaucoup plus de valeur que moi. Il peut être humble tout en reconnaissant qu'il a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de force, beaucoup plus de gloire que moi. Donc l'humilité de Dieu, il faut bien comprendre au début, ne consiste pas à nier la vérité concernant lui-même. En fait, dans un des passages où nous voyons le plus l'humilité de Jésus-Christ, c'est quand il enlève sa robe, il prend une serviette, et il commence à laver les pieds de ses disciples. Vous connaissez cette histoire? Cette même nuit, Jésus avait dit à ses disciples, en Jean 13, verset 13, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Vous voyez, il reconnaît qui il est. Il dit « Je suis vraiment votre maître, et votre Seigneur. » Donc Jésus peut dire à la fois, je suis le maître et le Seigneur de tous ceux qui sont dans cette salle, et je suis le plus humble de tous ceux qui sont dans cette salle. Alors, ça nous amène donc à la question, en quoi consiste l'humilité de Dieu? En quoi consiste l'humilité de Dieu? Et je veux juste considérer deux choses. Et d'abord, un Dieu humble est un Dieu qui s'approche de l'homme. Et on peut commencer notre méditation sur ce point, qu'un Dieu humble est un Dieu qui s'approche de l'homme. En considérant le psaume 113, les versets 4 à 6, qui dit ceci, « L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu dans les lieux très hauts? Il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. » Vous voyez, Dieu est dans une catégorie ici, tout seul. Il doit s'abaisser, s'humilier, pour voir ce qui se passe, même dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Vous sentez la grandeur de Dieu? Car là où il faut commencer pour apprécier son humiliation, c'est dans sa grandeur, dans la majesté qu'il a. L'humiliation, l'humilité de Dieu consiste dans le fait de s'abaisser et même de s'approcher de l'homme. Est-ce que vous vous intéressez dans la vie des fourmis? Est-ce que vous vous abaissez pour communiquer avec la fourmi?
pour même regarder, considérer ce qu'elle fait dans sa vie.
Le psalmiste a bien fait de se poser la question, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il se dit, mais qui suis-je pour que même tu prennes garde à moi, que tu me regardes? Il pose presque la même question dans le psaume 144. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Nous devons être étonnés par le simple fait que Dieu nous remarque, qu'il note notre existence, qu'il réfléchit à notre sort. Alors imaginez que vous êtes sur la rue Sainte-Catherine et vous voyez toute une grande foule de personnes, il y a des milliers de personnes. Et vous avez cette image dans votre tête? Alors savez-vous qui sont toutes ces personnes? Leurs soucis, leur joie, leur tristesse, etc. Alors on dit, bon, je suis incapable de connaître toutes ces personnes, et ça c'est vrai. Mais si... Imaginez que vous avez le pouvoir de connaître toutes ces personnes. Voilà ma question. Seriez-vous intéressé à connaître toutes ces personnes? Souvent on dit, bonjour, comment ça va? Et on dit ça, comment ça va, sans vraiment être intéressé dans la vie de l'autre. On n'est souvent pas même intéressé par la vue de la vie des autres personnes. Et donc nous pouvons dire que le premier acte de condescendance de la part de Dieu serait avant même la chute dans le péché, comme quand Dieu s'approche de l'homme pour avoir la communion avec lui. On nous dit en Genèse 3 que la voix de Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et ça nous suggère que c'est ce que Dieu faisait régulièrement. Dieu en fait descendait, il avait créé ces personnages, ça c'est avant la chute. Et il descendait vers eux pour avoir la communion avec eux, pour parler avec eux. Ça, c'est la condescendance de Dieu. Et ce qui est extrêmement remarquable, c'est qu'après la chute, Dieu a continué à le faire. Il est revenu. Il a appelé Adam. Il lui a posé une question. La conversation, si vous voulez, a continué même après la chute dans le péché. Et nous lisons ces versets en Ésaïe 1, où Dieu s'adresse à des pécheurs et il dit, venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel. Imaginez Dieu qui s'adresse de cette manière aux hommes pécheurs. Et ce que nous savons, c'est que chaque prophétie, chaque promesse, chaque menace, même dans l'Ancien Testament, est un acte de condescendance de la part de Dieu. C'est toujours ce mouvement, imaginez le mouvement de Dieu vers l'homme. C'est Dieu qui vient à chaque fois vers l'homme pour lui parler. C'est pas le contraire. Et ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu à la recherche des hommes. Dieu s'approchant de l'homme. C'est jamais le contraire. Ce n'est jamais l'homme qui part à la recherche de Dieu. Pensez à Abraham, par exemple, un des plus grands de l'Ancien Testament. Est-ce qu'Abraham est parti à la recherche de Dieu? Non, c'est Dieu qui est venu vers lui. Et les prophètes, ils sont venus de la part de Dieu à son peuple, ils n'ont jamais été envoyés de la part du peuple vers Dieu. Dieu est un Dieu humble qui s'abaisse pour visiter son peuple et s'approcher de l'homme. Et regardez un passage en 2 Samuel chapitre 7. Je vais vous montrer l'humilité de Dieu pour vivre parmi son peuple. 2 Samuel chapitre 7, nous sommes dans la vie de David. Et il dit de David, 2 Samuel 7, verset 1, « Lorsque le roi habita sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Vous voyez, ça c'est son souci. Moi je suis dans un palais maintenant,
Mais l'arche de Dieu, c'est dans une tente. Il a un peu mal au cœur, il a un peu honte.
Donc Nathan lui dit, verset 3, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et c'est clair que ce qu'il avait dans le cœur, c'est de construire un palais pour l'arche de Dieu. Mais regardez le verset 4. « La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Et je dis un mot à l'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Vous voyez l'humilité de Dieu ici ? Le tabernacle était le signe de son humilité. Le tabernacle était placé où ? Par rapport, il y avait les tribus d'Israël, en Exode. Il y a beaucoup de passages donnés au tabernacle. Et on avait mis le tabernacle où, par rapport au camp d'Israël, vous savez? Au plein centre, n'est-ce pas? Donc il y avait trois tribus de chaque côté, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, mais au centre, il y avait le tabernacle. C'était là où Dieu vivait, et sa présence était au milieu de son peuple. Et ils bougeaient ensemble. Dieu allait là où ils allaient. Ils allaient ensemble. Et Dieu n'a jamais demandé un palais. Il voulait rester là où était le peuple. Nous voyons l'humilité de Dieu qui veut, dans cette tente, comme il dit au verset 6, dans ce tabernacle, rester au milieu même de son peuple. Alors, notez ce qu'il promet à David. Surtout pour regarder le verset 12, de Samuel 7, verset 12. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtirait une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et on voit qu'il parle de quelqu'un de plus que Salomon ici, parce qu'il va affermir à toujours son trône. Et il y a d'autres promesses aussi d'un roi qui va venir, un fils de David, qui va venir et qui va régner. Alors, question, comment est-ce que ce roi va venir? Le roi, le grand fils de David, comment est-ce qu'il va arriver? Et c'est Zacharie qui nous donne la réponse, regardez ici. Il dit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Vous avez le roi juste et victorieux, mais comment est-ce qu'il arrive? Il est humble, il arrive sur un âne. C'est l'humilité du roi en s'approchant de son peuple. Et ça nous parle de l'incarnation, quand Dieu devient homme, quand il prend chair. Ça s'explique, l'incarnation s'explique par le mouvement de Dieu vers l'homme. Nous voyons cela un peu partout. Par exemple, Jean 3, 16, que vous connaissez bien, j'espère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, c'est Dieu qui prend l'action. Et dans le récit de la naissance de Jésus, nous voyons ça plusieurs fois. En Luc 1, 68, c'est Zacharie qui parle et dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visiter et racheter son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur.
Dieu a visité son peuple. Il rend visite, il vient visiter son peuple.
Nous retrouvons ce même mot, visiter, un peu plus tard dans le verset 78, quand il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'en haut.
Le soleil levant, c'est une référence à Dieu, et il nous a visité. Vous voyez, Dieu qui rend visite, qui vient vers l'homme.
On retrouve le même mot un peu plus tard dans en Luc, chapitre 7, verset 16, où il dit que tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et quoi? Dieu a visité son peuple.
L'incarnation, c'est quand Dieu visite son peuple. Ça, c'est l'humilité de Dieu.
Et c'est pourquoi Matthieu 1, verset 22 suivant dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie quoi?
Dieu avec nous. Jésus-Christ, c'est Dieu qui visite son peuple. C'est le roi qui vient humblement vers son peuple. C'est Dieu avec nous. Ça, c'est l'humilité de Dieu.
Et peut-être le verset qui est le plus marquant en parlant de cela, c'est en Jean chapitre 1.
Jean commence avec la parole, savoir de Jésus qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a tout créé, en elle était la vie, etc. Et puis, elle nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a quoi? Elle a habité parmi nous. Et ce mot habiter dans le grec, c'est le mot tabernaclé. C'est le mot tabernacle et c'est dans la forme verbale. Dieu a dit à David, j'ai toujours habité dans un tabernacle, dans une tente auprès de nous. Et maintenant nous voyons que la parole est faite chair et elle tabernacle parmi nous. Jésus devient le tabernacle. Il devient le temple, et plus tard il va parler du temple comme étant son corps, le temple où Dieu vient vers l'homme et où l'homme vient vers Dieu, ça c'est le temple, et c'est Jésus qui est ce temple, c'est Jésus qui est ce tabernacle, parce que Dieu est un Dieu humble qui s'approche de l'homme. Et puis une deuxième considération, un Dieu humble sert l'homme. Si nous pouvons garder en tête comment Dieu est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que nous, qu'il s'abaisse pour nous servir, nous voyons que Dieu, nous en parlait tout à l'heure quand Jésus prend cette serviette et qu'il lave même les pieds de ses disciples, c'était qu'un signe de ce qu'il a fait toute sa vie. Il est venu, Marc 10, 45 nous dit, il est venu non pour être servi, mais pour servir. De quelle façon? En donnant sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est dans ce monde. Il a existé avant, parce que c'est suggéré par le fait qu'il est venu. Il est venu, c'est-à-dire il existait auparavant, mais sa venue avait une intention délibérée. Il est venu pour servir. Il est venu pour sauver les perdus. Et ceci, vraiment, nous voyons depuis le début de sa vie, qu'il avait pris, dans toutes même les circonstances extérieures de sa vie, il avait pris le rôle, pas d'un roi, mais d'un serviteur. Et il n'est pas donc né dans un palais, et ça causait la confusion. Vous rappelez aux mages, ils arrivent à Jérusalem, ils vont au palais, ils se disent, bon, un roi, forcément, est né dans un palais. Ben non. Parce qu'il n'est pas venu, roi qu'étant roi, il n'est pas venu pour vivre comme roi, il est venu pour vivre comme serviteur. À Bethléem, la plus petite bourgade, il a grandi à Nazareth, la ville indésirable. Il est venu comme serviteur. Il a dit à un moment que le Fils de l'homme n'a même pas l'endroit où coucher sa tête. C'est la vie de Jésus.
Une chose que nous avons remarqué hier en pensant à la vie de Robert, c'est cet esprit serviable. Toute sa vie, il était au service. Plusieurs personnes ont remarqué comment il les a aidés à déménager, servir les autres. Et ça, Jésus était l'exemple suprême de quelqu'un qui vivait. Il était vivant sur terre pour servir. Alors maintenant, l'application. Et je veux, pour terminer, vous montrer trois passages. J'aimerais que vous les trouviez dans vos Bibles qui parlent de son humiliation. D'abord, le premier, c'est dans Marc chapitre 10. Et ce que vous allez voir, c'est que dans tous ces passages, quand ça parle de l'humiliation, il y a une application qui est faite. L'humiliation de Jésus, qui est une des personnes de la Trinité, quand on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de l'humilité de Dieu. Mais quand on regarde l'humiliation et l'humilité de Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour contempler quelque chose dans un musée. Une application. On doit sortir de cette salle en se disant, ah, moi, je dois vivre ainsi. Alors, regardez Marc chapitre 10, je commence au verset 41. Les 10, ayant entendu cela, c'est quoi le cela? Ben, c'est que Jacques et Jean avaient demandé de pouvoir avoir les deux plus grandes places d'honneur, à la droite et à la gauche de Jésus. Alors, j'imagine que si Jésus aurait dit oui, il serait commencé à débattre qui serait à droite, qui serait à gauche, parce qu'à droite, il y a plus d'honneur que d'être à gauche. Mais les 10 ont entendu qu'ils avaient même demandé cela, ils ont commencé à s'indigner contre Jacques et Jean. Je veux juste dire une chose en tant qu'application. Souvent, quand on voit l'orgueil de quelqu'un d'autre qui sort, le fait qu'on s'indigne, on se fâche, est un signe que nous-mêmes, nous sommes orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'ils s'indignaient contre Jacques et Jean? Vous êtes tellement orgueilleux, pourquoi vous demandez ça? C'est qu'ils étaient eux-mêmes orgueilleux, qu'ils voulaient eux-mêmes ces mêmes places d'honneur. Et souvent, les gens qui nous irritent le plus, on se dit, c'est orgueilleux ce qu'il fait de parler comme ça, d'agir comme ça, de réagir comme ça. Ça révèle qu'en nous, nous avons les mêmes semences d'orgueil. C'est ce qui se passe ici. Et donc, verset 42, regardez-le, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. » C'est-à-dire, vous allez être différents. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre quoi ?» Qu'est-ce qu'il dit ?« Votre serviteur. » Verset 44. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit quoi ?» L'esclave de tous. Car, regardez maintenant le verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Vous voyez le lien qui est fait entre ces deux choses? Vous voulez être grand, vous devez servir, car le Fils de l'homme, c'est un titre d'honneur que Jésus se donnait, qui vient de l'Ancien Testament, le Fils de l'homme est venu pour servir. Si vous voulez être grand comme Jésus, vous devez servir les autres. Vous devez être l'esclave des autres, dans la famille, dans le foyer. Qui veut être le plus grand? Qu'il devient le serviteur des autres. Ça, c'est l'application qui est faite. Alors, trouvez le deuxième passage, 2 Corinthiens 8, versets 6 à 9. Encore un passage qui parle vraiment de la condescendance de Dieu le Fils. Je vous lis le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il dit ceci de Jésus, verset 9. Qui pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Nous aimons bien les histoires de quelqu'un qui commence très pauvre et qui termine très riche. Hein, ça c'est le rêve, on dit que c'est le rêve américain. Mais Dieu, le Fils, a commencé très riche. Il a choisi, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il était riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il possédait toute la majesté de la divinité. Il accomplissait toutes les fonctions et jouissait de toutes ses prérogatives de Dieu. Il était aimé par le Père, adoré par les anges. Il était invulnérable à la souffrance, à la frustration, à la difficulté. On parle de que ta volonté soit faite ici sur terre comme elle est faite au ciel. Il connaissait que ça, la volonté parfaite de Dieu qui est faite tout le temps. Il existait dans une sérénité sans nuage. Sa suprématie était totale, sa satisfaction complète, sa béatitude parfaite. Et il ne s'était pas trouvé dans cette situation grâce à ses propres efforts. Il était toujours comme cela et il n'y avait aucune raison pour que cela change. Ça, c'est la richesse qu'il connaissait et il s'est fait pauvre. Ça, c'est la condescendance de Dieu pour nous servir, pour que nous soyons enrichis. Alors, regardez l'application. 2 Corinthiens 8, regardez le verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Alors, on pose juste un moment pour se demander quelle est cette œuvre de bienfaisance. Il parle ici d'une offrande d'argent que l'Église allait donner au sein de Jérusalem, aux chrétiens de Jérusalem. Et donc il dit, verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Dieu désire que l'Église baptise de Pessah-Compostelle excelle dans l'œuvre de bienfaisance, en partageant ses biens. Alors, je ne dis pas cela pour donner un ordre, verset 8, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous voyez le lien, verset 7. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette grâce, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Il a renoncé à sa gloire du ciel pour une mangeoire et une croix en bois. Lui, le roi de tout, a tout donné. Sûrement, il n'y a rien de mieux qui puisse révéler notre ressemblance à lui que lorsque nous donnons librement de nous-mêmes et de nos biens pour sa cause. Alors, est-ce qu'il faut donner la dîme? Non, il dit au verset 8, je ne fais pas de loi ici. Mais il faut exceller dans cette grâce de donner. Est-ce qu'en 2018, vous avez le désir de donner plus à l'Église de Jésus-Christ? D'exceller dans cette grâce pour la gloire de Dieu, pour ressembler à l'humilité et à l'humiliation de Dieu le Fils. Et finalement, regardons le troisième passage, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Donc on marque, on avait cette application de servir les autres. Même se faire esclave des autres, en suivant l'exemple de l'humilité de Dieu. En 2 Corinthiens, nous avons l'exemple de donner de nous-mêmes, même de nous appauvrir parfois, en suivant l'exemple de Dieu le Fils. Regardez Philippiens chapitre 2, on commence au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut leur demander? Tout ça, c'est une introduction à une requête qu'il va faire au verset 2. C'est que vous ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il parle ici de la communion fraternelle, de l'unité dans l'Église. Il dit verset 3, regardez-le, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est-à-dire pour sa propre gloire, parce que c'est une vaine gloire. Mais que l'humilité, vous voyez, nous sommes dans le contexte de l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est l'humilité selon la parole de Dieu. C'est pas dire, bon, je suis nul à ça, je suis nul à ça, c'est de regarder l'autre comme étant au-dessus de moi, c'est-à-dire plus important que moi. Je dis, oui, mais il faut me respecter. Oui, mais j'ai mes opinions, mes pensées, oui. Mais est-ce que vraiment je considère l'autre comme étant au-dessus de moi-même? Ses désirs, ses pensées, ses opinions, son confort. Que chacun, verset 4, de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est très très difficile, c'est pas naturel. C'est naturel de considérer chaque matin nos propres intérêts. Il dit non. Mettez de l'effort à réfléchir, à considérer les intérêts des autres. Et puis il dit ceci. Il continue, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la réponse. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non, sinon on est. Quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? Vous voulez savoir? Regardez le verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. En devenant semblable aux hommes, comme si nous on devenait semblable à la fourmi. Il devient semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Pour nous servir, il n'est pas venu dans toute sa gloire et sa splendeur, il est venu sur cet âne, humblement, comme un vrai homme. Ça c'est l'humilité de Dieu. Il quitte la gloire pour la Galilée. Et regardez le verset 8, parce que ça va encore plus loin. Il s'est humilié lui-même. Voilà, on peut s'humilier soi-même. Comment? Eh bien, en servant l'autre. Regardons. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, qui ici s'est humilié au point de mourir pour quelqu'un d'autre? Je suis sûr que c'est personne, parce que vous êtes tous là. Qui s'est humilié à passer une nuit blanche à travailler pour quelqu'un d'autre? Même ça, c'est rare. Même ça, c'est rare. Qui s'est humilié au point de donner toute une journée à quelqu'un? Nous voyons ici, mes amis, qu'il n'y a personne qui s'est humilié autant que Jésus-Christ. Si on regarde d'où il a commencé, au verset 6, il était Dieu, en forme de Dieu. Ou si on regarde jusqu'à où il est allé, jusqu'à la mort de la croix, il n'y a personne qui s'est abaissé autant que Jésus-Christ. Et il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez, l'humilité de Dieu et l'incarnation, Dieu devient homme, il devient serviteur. Il prend la forme d'un homme. Et il nous dit que ce soit pour servir, que ce soit pour donner, que ce soit même dans nos relations, le pardon qu'on offre aux autres, notre mentalité envers l'autre, eh bien nous devons, si vous voulez, on peut le dire comme ça, nous devons incarner